Saint-Paul-de-Vence, en Provence. Une carte postale de la France, un rêve de vacances pour les touristes. Le calme, les cigales, la pétanque à l'ombre. Huoming, entouré de ses amis, est chinois et très intrigué par ce jeu qui fait attroupement. Millionnaire, il a fait fortune en Chine dans les télécommunications. Et outre l'aspect pittoresque, c'est l'art contemporain qui l'intéresse ici, à Saint-Paul. On trouve des Dali, Chagall et Picasso à tous les coins de rue. Vacances utiles, il est ici pour acheter des œuvres d'art. L'art, une passion naissante chez les nouveaux riches chinois.
Je pense que vous, les Français, la culture de collectionner de belles pièces d'art est imprégnée dans votre esprit, dans votre histoire. Alors que nous, les Chinois, nous ne sommes que des débutants dans ce domaine. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre.
Pause déjeuner, sous les oliviers. À la fin du repas, au moment du thé, Huoming raconte à ses amis et aux deux jeunes galeristes qui l'accompagnent comment il est devenu riche. C'était il y a 15 ans.
Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore mal au dos. Ça se passait à Anyang. Je transportais des barres de fer. J'étais différent des autres qui étaient à l'usine. Dès que le chef de chantier avait le dos tourné, ils arrêtaient de travailler. Alors que moi, j'étais là pour apprendre la vraie vie. Et il était hors de question de faire comme eux. Du coup, je travaillais sans arrêt.
Autodidacte, il n'a jamais connu l'université. Il a tenté de travailler pour une marque de textile sans succès. Mais à cette époque, il a rencontré beaucoup de gens qui l'ont aidé à monter sa propre entreprise de télécommunications. Aujourd'hui, il parcourt le monde dans les plus beaux hôtels. Il y a 15 ans, il gagnait à peine 4 euros par mois.
La Chine vivait dans la pauvreté. Et depuis l'ouverture du pays avec l'étranger, les opportunités s'offrent à nous. Il existe de plus en plus de jeunes Chinois qui sont dans la même situation que moi. Moi, je ne suis qu'un parmi tant d'autres.
À 8000 km, en Chine, Pékin, la capitale. Ici, l'on vénère toujours l'architecte de la révolution prolétarienne, Mao, mort depuis 30 ans. Depuis l'ouverture économique du pays il y a 15 ans, le socialisme est définitivement enterré et le capitalisme s'impose du haut de ses buildings. Les grosses berlines allemandes remplacent peu à peu les vélos. Dans sa voiture avec chauffeur, nous retrouvons Huoming, notre touriste rencontré à Saint-Paul-de-Vence. Nous sommes en pleine semaine. Aujourd'hui, il ne va pas au bureau. Il s'accorde du temps et profite. Direction le toit d'un des plus beaux hôtels de la ville. Huoming n'a plus besoin de travailler pour vivre. Alors ce matin, pour lui, c'est tennis. Avec deux professeurs particuliers. Mais vous avez le temps de voyager et de faire du tennis ?
J'essaye de m'organiser et de garder du temps pour faire du tennis, oui.
Et vous n'avez pas trop de travail au bureau ?
Ça fait 6 mois que je ne suis plus allé au bureau.
En plein cours, il prend même le temps d'inviter des amis pour le thé. Pour eux, c'est dorénavant consommation et l'on est fier d'étaler ses richesses.
Elle est riche. Elle est très riche. Elle a beaucoup d'immobilier. Elle a beaucoup de voitures de luxe aussi. Des BMW, des Porsche.
Pour les millionnaires chinois, c'est farniente à l'occidental.
On a tous beaucoup de temps pour les loisirs. Moi, je n'ai pas d'amis stressés.
Mis à part le tennis, deux fois par semaine, Huo Ming passe le plus clair de son temps à acheter des œuvres d'art. Nous le retrouvons dans son appartement, au 33e étage d'un des plus hauts buildings de Pékin. C'est ici qu'il entrepose tous ses achats des artistes contemporains chinois qui peuvent aujourd'hui exprimer leur ressentiment vis-à-vis du régime maoïste.
Ce tableau est fait par un jeune artiste contemporain chinois qui s'appelle Guan Yong. Tous ces personnages ont une tête de cochon, regardez. Le livre rouge ou le ruban rouge font référence à l'époque de la révolution culturelle. Et en réalité, il veut dire que le cerveau des Chinois de l'époque ressemblait à celui des cochons. Il a peint ce tableau récemment.
À l'époque de Mao, il aurait le droit de peindre ça?
Non, on lui aurait coupé la tête.
Des œuvres souvent à plus de 100 000 euros. Et Huo Ming est tellement riche qu'il en achète à tour de bras. Pour nombre d'entre elles, il ne peut même plus en profiter.
Tout ce que vous voyez ici, ce sont des biens que j'ai achetés dans des ventes aux enchères. Et regardez, je n'ai même plus de place pour les exposer.
Et aujourd'hui, son 600 mètres carrés est trop petit. Alors, il va déménager dans la banlieue de Pékin. Une banlieue cossue au milieu d'autres millionnaires. Il a demandé à ses amis de venir le rejoindre pour leur faire visiter le chantier de sa future maison. De quoi accrocher ses centaines de toiles. Ce n'est pas le chantier d'un immeuble, d'une usine, d'un théâtre, juste de sa villa. 1800 mètres carrés.
C'est l'espace de jeu des enfants.
C'est sur deux étages?
Oui, ils pourront jouer comme ça. Je vais installer un toboggan qui partira de là et qui descendra comme ça. Là, c'est une autre salle à manger. C'est suffisant, non?
C'est trop grand.
Excusez-moi, il y a beaucoup de maisons comme ça en Chine?
Oh, très peu. Oui, très peu. Du moins, j'en ai jamais vu.
Le chantier a déjà commencé depuis un an. Le luxe de Huo Ming, avoir le temps d'attendre pour être sûr des finitions de sa maison musée. Et quand est-ce que la maison sera terminée?
L'année prochaine. Je pense qu'il faudra encore 6 mois.
Et vous êtes pressé?
Non, absolument pas.
Huo Ming s'est construit à la force du poignet. Ce n'est pas le cas de tout le monde. En Chine, il existe déjà une jeune génération dorée. Comme en Occident, dans les magazines People, une génération qui profite de la récente fortune de leurs parents. Celui qui est fier de nous montrer les jouets derniers cris des enfants habite encore chez papa et maman. Zhang Zhao a 32 ans. Son père est un riche promoteur et expose ses chantiers sur une fresque peinte au milieu du salon.
Ça, ce sont les maisons que l'on a construites. Vous voyez ces maisons, elles sont toutes dans mon village. Ça, c'est ma maison, la façade. Ce sont toutes sortes de maisons. Toutes ces maisons ont été construites par mon père. Là, il y a mon père, ma mère et moi. Moi, je porte un livre. Et puis, c'est ma sœur aînée.
Zhao fait partie de la nouvelle jet-set pékinoise. Son père lui a payé des études en Australie. De retour, il travaille avec lui, mais il a du temps libre. Cet après-midi, il part avec son chauffeur essayer une voiture qui va très vite. Vous aimez les voitures de sport?
Ah, j'aime ça. Oui, j'aime bien ça. Mais j'ai un peu peur que ce ne soit pas très adapté pour la ville, la Pékin.
Effectivement, à Pékin, c'est les bouchons en permanence. Pourtant, la dernière tendance est d'y posséder une voiture de sport surpuissante. Zhao est tenté lui aussi. La Chine est devenue le cinquième pays acheteur de ce genre de bijoux.
Combien ?
420 000 euros.
Si Mao n'a toléré aucune richesse matérielle pendant 30 ans, les choses ont aujourd'hui bien changé. 42 de ces bolides italiens ont été vendus en Chine l'année dernière. Zhao, lui, est sous le charme.
Ah, celle-là, je pense qu'elle est bien. Ouais, celle-là, elle est chouette.
Décision est prise de l'essayer.
Comment vous vous sentez? Moi, je trouve ça un peu dangereux quand même. J'ai eu l'impression de m'envoler.
Avant de prendre sa décision, Zhao a convié deux amis chez le concessionnaire. Quand on est jeune et riche, on est presque partout, comme chez soi.
Voilà deux mannequins gagnantes d'un concours national, deux jumelles de Pékin.
Tellement jet set.
Si j'avais assez d'argent, j'achèterais la rouge. Mais si je ne peux dépenser que 200 000 euros, alors je prends la noire.
Et vous y pensez?
Ah ouais, j'y pense, elle est très belle.
Après sa journée bien remplie, Zhao dîne dans le meilleur restaurant japonais de Pékin.
Vous servez mes invités, tout ce qu'ils commandent, boissons, alcool.
Autour de la table, stars en devenir, agents, producteurs télé. Et Zhao a invité également les deux jumelles mannequins de l'après-midi. Pour le dîner, il a demandé un salon privé et un cuisinier particulier. L'hôte est plutôt du genre épicurien.
Tous les jours, nous buvons jusqu'à l'ivresse. Un jour, on a bu jusqu'à 3 heures du matin. Et puis après, on est allé nager nu dans la piscine. Waouh, c'était génial. Et la piscine au plein cœur de la nuit, ah là là, c'était quelque chose. La vie est définitivement faite pour s'amuser. Il y a tellement d'amis, on se retrouve ensemble, on boit un coup, on est contents tous ensemble. La vie est dure la semaine, du lundi au vendredi, je travaille dur avec mon père. Et j'ai tellement de projets. Il faut monter une école, développer une université, un hara. Il y a aussi cette histoire de club de golf. Donc le week-end, je vois mes amis.
Dans les assiettes, homard et une quinzaine de plats qui suivent. À la table, on trinque toutes les 5 minutes. Cul sec, tradition oblige. Saké japonais, mais aussi vin français, mélange des cultures. Comme dans les clubs branchés occidentaux de New York, Los Angeles ou Londres, la fête à Pékin pour Zhao et ses amis, c'est l'insouciance jusqu'au bout de la nuit. Ici, à Pékin, malgré les souvenirs d'une Chine traditionnelle et cinq fois millénaire, la vie ressemble de plus en plus à celle des Américains ou des Européens, à partir du moment où l'on a de l'argent. Avec les mêmes problèmes aussi. Bao Kuan a 39 ans, il a fait fortune dans l'immobilier et il a de quoi contempler lorsqu'il regarde ses maquettes.
Ceci est une maquette de notre parc résidentiel. C'est un cabinet d'architecture américain qui l'a créé. Mais nous l'avons amélioré avec des critères chinois.
Et combien avez-vous construit d'appartements ?
Beaucoup. Peut-être bien 5000 à 6000 appartements. Mais je suis plus fort en superficie.
En 10 ans, il a construit plus d'un million et demi de mètres carrés en Chine. Mais aujourd'hui, enfermé dans son bureau, il ne rêve que de nature.
On se sent bien ainsi. C'est très campagne comme décor. Les oiseaux viennent souvent y jouer.
Alors tous les vendredis soirs, comme un citadin aisé, d'une grande capitale occidentale, il fuit la pollution. Avec sa famille, il part à la campagne. Grâce à sa fortune, il a acheté un havre de paix à 40 km de Pékin, à Changping, le petit Saint-Trope. Plus de 2 hectares de verdure pour préserver sa famille et une maison d'architecte de 5000 mètres carrés.
Oh, mais c'est Monsieur Zhang qui joue au piano. C'est lui qui a écrit ce morceau. Il m'a écrit cette mélodie au début de notre rencontre.
Bao Quan et sa femme sont plutôt atypiques en Chine. Alors qu'une grande partie de la population se demande comment remplir son assiette et tente de fuir les campagnes pour la ville, ici c'est mets à profusion et au petit déjeuner, on mange bio.
La vie au centre-ville est assez stressante. Donc nous venons ici pour nous détendre. On peut faire plein de choses ici, y compris manger et boire de bonnes choses. Par exemple, ceci est du bon lait de notre élevage. La vache est dans notre ferme, on n'en trouve pas en ville.
Pour protéger ce bonheur, des grilles et des caméras tout le long. Un réflexe singulier dans le pays. Et le programme du week-end ressemble aux activités d'un club de luxe, artistique et sportive. Mais il n'en a pas toujours été ainsi pour eux.
Quand j'étais petit, la vie était dure pour ma famille. Nous appartenions à la couche de citadins pauvres. Nous sommes 6 enfants dans ma famille et je suis le 4e.
Et quelles étaient vos difficultés ?
Les difficultés ? Mon père était le capitaine d'un bateau qui transportait des passagers sur le fleuve Yangtze. Et ma mère, une ouvrière ordinaire. Cela veut dire que le salaire de mes parents était le seul revenu de la famille. En tout, cela faisait 6 ou 7 euros par mois.
Aujourd'hui, Bao Quan souhaite consacrer sa fortune au cinéma. Il possède déjà 800 salles dans le pays, plus une chez lui. Il se lance dans la production d'un nouveau format, concurrent des DVD, le EVD. Même à la campagne, il joint l'utile à l'agréable, toujours dans le confort le plus absolu.
Il y a un rapport avec notre travail. Ce produit fait partie de notre business. Étant donné que mon mari a fait des études de cinéma et que nos enfants adorent les films, eh bien nous avons créé 7 salles de cinéma chez nous. C'est le plaisir de la famille.
Instant privilégié et à chaque culture, ses préoccupations de parents.
Il faut que tu apprennes à faire du cheval. Imagine qu'un jour, tu te retrouves dans une prairie, il va falloir que tu saches en faire pour survivre. C'est comme savoir nager, c'est indispensable, d'accord ? Regarde, lui, comme il est courageux.
Certains tentent de se préserver à la campagne, d'autres profitent du développement de la ville. En vue des JO, Pékin a la fièvre, un gigantesque chantier. La ville rase ses quartiers historiques. Le prix des loyers augmente de 15% par an. Parmi ceux qui veulent profiter de la manne, Chen Il-kun. Il a fait fortune dans l'alimentaire.
Pour 2008, nous allons investir à Pékin. Le but est d'avoir plus de 77 restaurants.
Vous en avez combien aujourd'hui ?
Nous en avons 19 aujourd'hui. Et en 2008, 77. De plus, nous allons assurer le repas pendant les JO. Au total, ça fait plus de 180 000 repas par jour.
Il se veut résolument moderne. Et pour séduire les visiteurs des JO, Lui, son truc, ce ne sont pas les restaurants traditionnels chinois, le canard laqué ou les crevettes au sel.
Nous sommes dans un de mes restaurants. C'est une franchise. Chaque franchise a un thème différent. Ici, c'est le Mexique.
Mais ce ne sont pas ces restaurants qui l'ont rendu riche. Il nous emmène à la sortie de Pékin. Une usine. Sa fille travaille ici, en père moderne. Il l'a envoyée étudier aux États-Unis. Elle revient tout juste de l'université de Los Angeles pour travailler aux côtés du directeur de l'usine qu'il nous présente. Car son vrai secteur est industriel. Sa fortune, il la doit à ce petit plat, le hamburger. Il a eu l'idée de faire connaître le hamburger aux Chinois après l'ouverture économique. Contrairement aux grandes marques américaines, il les produit en usine. Sa recette les distribuer à proximité des lieux de passage. Les jeunes Chinois en raffolent. Il les expédie dans 1800 points de vente dans tout le pays. Et aujourd'hui encore, il veille au grain.
Tous les jours, il faut nettoyer. Lorsque vous changez de farine, c'est une habitude à prendre. Et après, cela deviendra un automatisme. D'accord ? C'est très certainement la plus grande usine de fabrique de hamburgers en Chine. La capacité de production est de 60 000 à 70 000 hamburgers par jour.
Et ces hamburgers vont tout après ?
Dans les écoles, les magasins, les supermarchés.
Des hamburgers à réchauffer au micro-ondes. Il les propose aux écoliers comme petit déjeuner ou au goûter. Succès assuré. Son quartier général. D'ici, il surveille en permanence son usine et ses 19 restaurants. À son bureau, il préside également la Fédération de l'industrie et du commerce. L'ouverture de son pays, il l'a vécu aux avant-postes.
En 1997, je suis allé effectuer une visite aux États-Unis à la tête d'une délégation de 50 personnes composée d'entrepreneurs chinois privés.
Monsieur Bush Senior a invité mes deux collègues et moi à déjeuner chez lui. Là, vous voyez, c'est son épouse, Barbara Bush. Ils ont même dit que nous étions les premiers Chinois qui aient mangé chez eux. Il y a même sa signature.
C'est un homme qui compte. Il a vite compris qu'en Chine, il vaut mieux s'occuper de politique si on veut réussir dans les affaires. Il multiplie les casquettes et collectionne les laissez-passer à la couleur rouge. Conseil municipal, Assemblée nationale, réunion gouvernementale.
Pour les hommes d'affaires chinois, faire du commerce va de pair avec la politique. Il y a une relation très étroite entre la vie politique et le commerce en Chine.
D'après vous, est-ce que la Chine est toujours un pays communiste ?
Bien sûr.
La Chine est toujours un pays communiste.
C'est juste que le communisme évolue aussi avec le temps, avec les changements économiques du pays. La Chine met l'accent sur le développement du pays.
Une Chine toujours communiste, peut-être avec des bémols. Une chose est sûre, aujourd'hui, les milliardaires ne veulent plus se mélanger avec les pauvres. Et des pauvres à Pékin, on en trouve à chaque coin de rue. Où loger lorsque l'on cherche son confort ? Cet homme a trouvé une solution pour eux. Ce promoteur de 36 ans connaît leurs préoccupations. Il est millionnaire, lui aussi. Devant l'affluence de Pékinois fortunés, il a décidé de les loger ensemble, dans un lotissement de riches. Des châteaux individuels, comme des maisons préfabriquées.
Voici notre projet en développement. Un parc résidentiel gigantesque. Vous voyez, chacune de ces maisons fait en moyenne 1500 mètres carrés. Et vous avez vu, le style principal est européen. Les maisons, surtout, sont de facture plutôt française.
Voici le projet Grandeur Nature, près de l'aéroport. 172 châteaux pour millionnaires se construisent, les uns à côté des autres. Le promoteur nous fait l'article.
Alors ici, il y aura une salle de réception de plus de 10 000 mètres carrés. Je pense qu'elle sera opérationnelle dès la fin de l'année prochaine. J'ai engagé un Américain pour terminer ce chantier. Ce sera une salle de réception de luxe et privée, bien sûr. Je pense qu'elle sera la plus luxueuse de Pékin.
Certains sont déjà vendus. Et il y a même un château témoin pour les visites. Et des gardes factices.